Un paroissien m'a demandé pourquoi Dieu, je reprends ses propres termes, pourquoi Dieu avait attendu Moïse pour donner la loi. Pourquoi, me demandait-il, pourquoi est-ce qu'il avait attendu Moïse dans l'histoire du salut pour donner la loi, pour se révéler comme le Dieu qui libère de l'esclavage, de l'Égypte, qui donne la liberté, qui se révèle comme le Dieu de tendresse, tendresse et fidélité. Et pourquoi pas avant? Pourquoi d'ailleurs les Juifs ne comptent-ils pas le temps à partir de Moïse, alors que la loi de Moïse est si centrale? Pourquoi n'y a-t-il pas pour eux un temps avant Moïse et un temps après Moïse? De même que nous, nous chrétiens, nous disons qu'il y a un temps avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. D'ailleurs, Moïse, c'est à peu près 1200-1250 avant Jésus-Christ, où nous disons facilement aujourd'hui avant notre ère, de façon plus pudique, avant l'ère chrétienne. Et les musulmans, de leur côté, ils ont comme point de départ de leur calendrier, vous le savez probablement, l'année 622 de notre ère. Ce qu'ils appellent l'année 622 de l'Égir, le mot veut dire immigration, c'est l'année où Mahomet a émigré de la Mecque à Médine. Et ils ont ensuite un décompte un peu particulier dans leur décompte religieux du nombre de jours par mois, parce que normalement, on devrait être, suivant ce décompte, en 1399, c'est-à-dire 2021-622, et pour eux, nous sommes en 1443, parce qu'il y a quelques différences de jours et par mois. Le calendrier juif ne commence pas à Moïse. Il commence bien avant, plus de 2000 ans avant, à la création d'Adam et Ève, que la tradition juive a d'ailleurs fixé de façon assez tardive, à 3761 avant notre ère. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'au moment où ils ont fêté la nouvelle année en septembre à Rosh Hashanah, pour eux, nous sommes en 5782. Vous voyez ces trois calendriers, l'ère chrétienne, nous sommes en 2021, pour les musulmans en 1443, pour les juifs en 5782. Ça va être quand même assez difficile de pouvoir s'y retrouver et quand même unifier tout cela. Mais ce qui est important justement dans cette approche juive rabbinique, c'est que le point de départ pour eux n'est pas l'alliance avec Moïse. Ce n'est pas non plus l'alliance avec Abraham. Ce n'est pas plus l'alliance avec Noé, mais c'est la création, et plus exactement notre création, la création de l'homme, l'acte par lequel Dieu nous a divinisés. Il a fait, pour parler en termes modernes, il a fait d'un grand singe un petit homme. En soufflant sur lui, voilà ce que nous lisons dans la Genèse, en soufflant sur lui son esprit, en nous donnant une âme immortelle. Mais avec Moïse, s'est révélé ce qu'il s'est passé à ce moment-là, lorsque Dieu a insufflé son esprit en Adam et Ève, dans le premier homme, puisque homme et femme les créa, il a gravé en nos cœurs sa loi d'amour. Il nous a donné ses commandements qui sont, depuis l'origine, gravés en nos cœurs, et pour parler en termes modernes, il a créé la conscience. Dieu n'a pas attendu Moïse pour révéler cette loi d'amour qui est depuis l'origine inscrite en nos cœurs. Mais avec Moïse, il l'a effectivement donnée sur des tables de pierre, il l'a donnée extérieurement pour que nous la lisions et nous la relisions sans cesse, pour que nous l'apprenions, pour que nous l'approfondissions, pour comprendre ce qui est inscrit dans notre cœur, pour apprendre à la lire sur notre cœur de chair, pour que notre cœur soit véritablement un cœur de chair, pour que nous puissions vivre cela en âme et conscience. Nous croyons que tout être humain a une conscience. C'est ce qui fait notre humanité, notre conscience. Même lorsque, en apparence, il n'est plus conscient, même lorsqu'il semble se comporter comme un inconscient, notre âme précède et dépasse notre corps et elle lui survit. C'est ce que nous fêtons justement ces jours-ci. Créés âme et corps, nous ressusciterons âme et corps. Et cette résurrection des morts, cette résurrection de la chair, est la seule possibilité pour que nous puissions retrouver après la mort ce que nous avons aimé. Le corps est nécessaire à l'âme pour entrer en relation entre nous et entrer en relation avec le monde. C'est par notre corps que nous pouvons communiquer, que nous sommes en relation les uns avec les autres. Si l'âme seule subsistait dans la vie éternelle, nous pourrions probablement voir Dieu, mais nous ne pourrions pas retrouver ceux qui nous ont quittés, ceux que nous avons aimés. Et vous savez comme moi l'importance que nous lui accordons, leur accordons à ces retrouvailles, la place que ces retrouvailles ont dans notre espérance. L'insufflation divine par laquelle nous sommes chacun une personne humaine et une personne unique devant Dieu qui est unique. Cette insufflation ne s'est pas faite pour chacun d'entre nous à la sortie du ventre de notre mère, à notre naissance physique. Elle se fait à l'instant même de notre conception, à l'instant même de la décision divine, de cet acte créateur, qui est le premier instant de notre vie. Voilà quel est le premier instant de notre vie, aussi difficile à déterminer scientifiquement que le dernier. Pour le dire simplement, l'embryon a une âme. L'embryon est doué de conscience et de volonté. Et non seulement il se nourrit du corps de sa mère, mais surtout de son amour pour lui. Est-ce que les parents, la mère et le père, retrouveront au ciel les enfants qui sont morts avant leur naissance, avant le terme de la grossesse? Nous le croyons. Nous le croyons, et cette conviction que l'embryon doit être traité comme une personne humaine, que l'embryon a droit au même respect, fait partie de nos désaccords avec les lois de la République. Quand bien même, en ce moment, nous devons faire un peu profil bas. Après ce que nous avons fait, ou du moins laissé faire, à tant d'enfants. Dans la dispute publique qui a eu lieu début octobre sur le secret de la confession, ce qu'il aurait fallu rappeler, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre des lois civiles et des lois religieuses. Il n'y a pas d'opposition entre lois civiles et lois religieuses. Il y a un écart toujours possible, mais pas pour nous croyants, pour tout être humain. Pour tout être humain, il y a un écart qui est toujours possible entre des lois civiles et sa conscience. Voilà l'écart qu'il y a. C'est entre des lois extérieures et sa conscience. Et cet écart a été formulé de façon inégalée par un Anglais, Saint Cardinal Newman, disant, je ne vous lis pas dans le texte, « Si après un dîner, j'étais obligé de porter un toast ecclésiastique. » Il ajoute, ce qui évidemment ne se fait pas, il dit, « Je boirai à la santé du pape, croyez-le bien, mais à la conscience d'abord et ensuite au pape. La conscience d'abord, ensuite les lois religieuses et les lois civiles. La conscience d'abord, voilà ce que signifie obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, comme dit les actes des apôtres. Obéir à Dieu, c'est obéir à sa conscience. Non seulement obéir à Dieu, mais aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est respecter sa conscience. Nul n'a le droit d'agir contre sa conscience. Et le Concile Vatican II a défini cela de façon magnifique, la conscience, le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix, la voix de Dieu, se fait entendre. Voilà pourquoi nous avons régulièrement besoin de calme, de silence, de prière. Voilà à quoi sert la vie chrétienne, c'est-à-dire les sacrements, la prière, l'écoute et la méditation de la parole de Dieu, à retrouver cette loi d'amour qui est gravée dans notre cœur. Cela n'empêche pas d'être attentif, comme tout citoyen, comme tout bon citoyen, aux lois de la République, La plupart des lois de notre République éclairent notre conscience. Et c'est tout à fait logique parce que notre République est chrétienne d'origine. C'est une fille naturelle de l'Église. Mais qui a un petit peu dérivé, un certain nombre de lois, nous le lisons, nous l'affirmons, un certain nombre de lois peuvent obscurcir parce que la même République est un enfant prétentieux qui prétend cette fête elle-même, qui renie une grande partie de son histoire. Mais là aussi, l'Église n'a pas toujours été un modèle d'humilité. La seule différence, c'est que dans l'Église, aucune loi n'est mauvaise. Il y a des pratiques qui ont besoin sans cesse d'être réformées, améliorées, et certaines même qui sont contraires à l'Évangile. La particularité, la grandeur du Christ, c'est qu'il n'est pas seulement un modèle comme les saints et les saintes que nous allons honorer demain. Il n'est même pas seulement le modèle parfait que l'Écriture appelle le Saint de Dieu. Le Christ est l'auteur de la loi, l'auteur même de la loi qui est gravée dans nos cœurs. Dieu né de Dieu, lumière de la lumière. Et un jeune homme qui me demandait dimanche dernier à la sortie de la messe de quelle façon Dieu est présent dans notre vie. Voilà la réponse que j'aurais dû lui faire. Dieu qui est l'auteur de la vie est l'auteur de la loi gravée en nos cœurs. Dieu est celui qui nous parle chaque fois que nous entrons dans le secret de notre conscience. Parce que la loi divine est inscrite dans notre cœur. Notre dignité de lui obéir, et c'est elle qui nous jugera. Alors aimer, oui, il nous faut aimer en notre âme et conscience.